Le Grand Dialogue.
Sigi Kanfoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Berry.
Halud Mouli.
Chenni Berry. Sigi Kanfoba.
Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous suivez le Forum de la Presse et ce soir, nous allons aborder à peu près quatre sujets. Il s'agira du processus de paix avec le CSA. On a un nouveau chronogramme. Également, on parlera de la force G5 Sahel avec l'opération Pagnali ou Tonnerre qui a été lancée cette semaine. Nous parlerons également d'élections et, si le temps nous le permet, de la grève des enseignants. Nos invités sont tous journalistes, Bandjougou Danté et Boubacar Yalkouyé.
Le Grand Dialogue.
Alors, nous allons commencer par le processus de paix avec le CSA, le comité de suivi de l'accord qui s'est tenu cette semaine, la 23e session, à l'issue de laquelle le gouvernement, la plateforme et la coordination des mouvements de la Zawad ont affiché une volonté d'aller vers un bon pas concernant le processus de paix. Bandjougou Danté, est-ce que vous êtes confiant par rapport à ce nouveau chronogramme qui a été annoncé?
Nous devons être confiants, mais il faut émettre des réserves par rapport à certains comportements. Parce que des gens ont signé un accord et jusqu'à une date récente, je ne crois pas que jusqu'ici, que l'on ait remis en cause cet accord-là. Que ce soit la partie gouvernementale, que ce soit la partie groupe armé, tout le monde demande l'application de l'accord, Certainement, il y a des interprétations différentes. Mais au moment où les parties signataires, y compris l'État, demandent chacune en ce qui la concerne, l'application de cet accord-là, au même moment, on voit une recrudescence de certains comportements qui consistent effectivement à remettre en cause cet accord-là, par des visites je ne sais où, permettez-moi de m'exprimer aussi parce que ça fait trop mal au cœur, d'un côté, et de l'autre côté...
Vous voulez parler de la visite aux États-Unis?
Justement, et par la célébration d'une situation qui n'a absolument rien à voir avec l'accord. En tout cas, les fondamentaux de l'accord, c'est le respect de l'intégrité territoriale, de l'unité nationale, de la forme laïque et républicaine de l'État du Mali. Donc, si déjà on est d'accord avec ces principes et que tous les restes ne sont que des détails à mettre en application, nous comprenons mal aujourd'hui que les gens soient là avec des comportements qui consistent effectivement à faire trop mal, même aux citations lambda, aux citoyens lambda.
Boubacar Yalkouyé, votre avis là-dessus?
Oui, moi je suis pessimiste, comme je l'ai toujours été, par rapport à l'application de l'accord de paix issu des négociations entamées à Alger. Vous avez vu, l'autre jour, on a évoqué, vous avez parlé du chronogramme par rapport à la mise en place du Moka et au niveau de Kidal et de Tombouctou, qui sont prévus du 20 de ce mois au 15 mars. Au 15 mars. Et regardez la mise en application des différentes étapes sur le terrain. Elle a toujours pris un coup dur. Et ce coup dur, malheureusement, on n'a jamais évalué les raisons pour lesquelles il y a toujours eu des imprévus dans la mise en place de l'accord. Et par-delà également, nous n'avons jamais vu de sanctions, malgré qu'il y a toujours eu des dénonciations par-ci, par-là, et de la part de l'État, et aussi de la part de la communauté internationale. Mais l'accord va aussi avec aussi des sanctions. Il a été dit clairement que ceux-là qui ne respecteraient pas la mise en application de l'accord doivent être sanctionnés. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est montré intransigeant par rapport à cela dès le départ. Mais quant à l'effectivité de cette sanction sur le terrain, nous ne l'avons jamais senti. Et donc, sans sanction, ça ne peut pas continuer. Et tout le monde sait également aussi d'où viennent aussi ces histoires quand même qui nous mettent tout le temps en retard, tout le monde le sait, surtout avec la coordination des mouvements de l'Azawad avec la CMA, tout le monde le sait. Mais il n'y a pas eu de sanctions. Et imaginez un peu, même par rapport aussi au MOC que nous voyons aujourd'hui, il a été dit on ne peut pas aller vers la paix sans pour autant quand même démunir ces gens de leurs armes. Ils l'ont. Et même la rencontre du CSA, ils ont été très clairs, ils disent qu'ils ne vont pas laisser les armes, surtout les armes lourdes. Mais s'ils ont les armes, c'est leur moyen d'intimider,
c'est leur moyen à chaque fois, si on veut aller vers la stabilité, d'y renoncer parce que c'est dans cette insécurité qu'ils se plaisent. Et c'est dans cette insécurité également qu'ils vivent. Ils n'ont pas intérêt à ce que la guerre finisse aujourd'hui. Ils n'ont pas intérêt à ce que la crise finisse aujourd'hui. Raison pour laquelle tout le temps ils nous mettent en retard. S'ils ont accepté d'apposer leur signature sur le truc, le document, alors maintenant, à l'État malien, à la communauté internationale de prendre leurs responsabilités. Sur la crise n'a fait que trop durer. Le peuple malien en a souffert. Et par-delà aussi, les habitants de ces pays aussi qui sont au chevet du Mali, ils ont trop souffert. Que ce soit sur le plan économique, ils sont 30 ans de perdre leurs hommes ici. Pendant combien de temps nous sommes dans ce brouhaha-là? Ça ne peut pas continuer.
Et vous dites qu'il n'y a jamais eu de sanctions. Au même moment, il y a le président qui annonce une charte qui va en quelque sorte pardonner à tous ceux qui ont fait du mal, sauf ceux qui ont du sang sur les mains.
Oui, il a parlé de cela. Ceux-là qui n'ont pas la paluche ensanglantée de sang seront peut-être amnistiés entre guillemets. Mais moi, je dirais bien que je ne sais pas de qui il parle. Parce que ces responsables de ces différents groupes armés réunis, et comment on appelle ça, regroupés au sein de la coordination des mouvements de l'Azawad, aucun de ces leaders-là ne peut être épargné aujourd'hui s'il y a lieu de sanctionner. Moi, je ne vois pas. Je ne vois pas. Parce que même s'ils ne sont pas ils ne sont pas visibles par rapport aux actes ignobles posés sur le terrain. Mais ceux qui les ont fait sur le terrain étaient à la solde de qui? Et la plupart aussi de ces mouvements, ils ont eu à collaborer avec Iyad, tout le monde le sait. Les éléments du HCIA étaient avec Iyad, tout le monde le sait. Le MLA qui a ouvert les portes du Nord à ces groupes terroristes, à ces djihadistes-là. C'est le MLA. Pendant l'occupation du Nord, ils collaboraient avec qui? Ce sont avec ces groupes armés qui sont sur la liste noire de la communauté internationale aujourd'hui. Ils ont collaboré ensemble. Donc il n'y a pas question de dire aujourd'hui que s'il y a lieu de sanctionner, qu'un d'entre ces acteurs-là pourrait être épargné. C'est impossible.
D'accord. Banjougou Danté, êtes-vous également pessimiste par rapport à cette annonce du nouveau chronogramme?
Bon, honnêtement, dans cette histoire-là, tant que communauté internationale, le gouvernement du Mali n'arrive pas à faire le distinguo entre individus, groupes armés, fréquentables et non fréquentables. Ça, c'est extrêmement important. Nous pensons qu'aujourd'hui, le Malien a le sentiment d'être méprisé par tout le monde, d'abord. Et nous avons souvent le sentiment que c'est un complot, si ce n'est le cas déjà, qui se trame contre nous. Parfois, quand on voit tous ces gens qui posent des questions, on veut faire des enquêtes, on veut faire ceci, on veut faire cela, comme on l'a dit, tous les acteurs de cette crise-là sont connus. Les gens peuvent changer d'appellation. Mais sinon, en réalité, les éléments restent les mêmes.
Si les acteurs sont connus, est-ce que le problème également est connu?
Le problème, il est connu.
Pourquoi n'arrive-t-on pas à trouver une solution à ce problème alors?
Nous n'arrivons pas encore à trouver la solution à ce problème parce que pendant longtemps, notre État a été fragile. Nous sommes obligés de négocier, discuter et qu'on nous fait du n'importe quoi parce que militairement, nous avons échoué dans un passé récent. Sinon, honnêtement, ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est une situation qui est entretenue et qui est appelé à perdurer si ça doit continuer comme ça.
Alors, fragile par manque de moyens ou de compétences?
Bon, je crois qu'il y a à la fois un problème de moyens qui a toujours été posé depuis le début de la crise, mais également il y a un problème de vision. Problème de vision pourquoi? Parce que le nouveau régime, à son arrivée, a suscité beaucoup d'espoir. À ma connaissance, le premier responsable a même réussi à battre campagne à Kidal, à un moment où beaucoup de candidats n'avaient pas accès à cette localité. Mais à partir du moment où le candidat actuellement président a réussi à prendre langue avec les acteurs de la crise, une fois arrivé au pouvoir, le plus important, c'était de rester dans cette dynamique de cohérence qui consistait à toucher du doigt le fond du problème qu'il a connu auparavant, même si les données de la géopolitique ont véritablement changé. Mais en tout cas, on avait beaucoup de cartes en main pour pouvoir relancer et rebattre les cartes. Maintenant, pourquoi a-t-on pris trop de temps beaucoup de retard jusqu'à amener cette communauté internationale à s'immiscer davantage dans les problèmes, au point que des gens ont eu une assise internationale assez solide et ils continuent à nous faire chanter. Sinon, je pense que vraiment, le régime a bénéficié de circonstances favorables.
D'accord.
Contrairement à beaucoup qui disent qu'on a trouvé un État à terre, on a trouvé un... D'accord, la situation était difficile, mais l'engouement suscité par l'arrivée du nouveau président était un élément important pour tuer les poussins dans l'œuf.
Alors, est-ce que vous avez noté quelques avancées depuis positives, bien sûr, depuis le début de ce processus de paix?
Bon, avancées positives, il y a des éléments que nous ne pouvons véritablement pas savoir. Qui veut la paix prépare la guerre. Il semble que... Il y a une mise à niveau progressive de nos forces de défense et de sécurité. Mais côté politique, là, moi, je crois qu'il faut que les uns et les autres fassent franc jeu. Ceux qui, aujourd'hui, sont aux États-Unis, ce sont ces gens qui étaient à l'hôtel Onomo ici. Ils étaient à l'hôtel Onomo ici. Ce sont ces gens qui ont déclaré leur non-participation à la conférence d'entente nationale et qui ont pris le train du président de la République en marche après. N'est-ce pas? Donc, honnêtement, je ne crois pas que des actes aient été posés entre la conférence d'entente nationale et au jour d'aujourd'hui qui puissent amener des interlocuteurs à faire volte-face.
Non.
Donc, moi, je crois que les gens arrivent à se dire des vérités et comprendre que le jeu auquel ils jouent ne fait que contribuer à mettre fin à l'existence de certaines personnes. C'est des vies humaines qui sont en danger. Que les gens comprennent que leur propre vie, là, ils ont beau durer sur cette terre, ils ne dépasseraient pas un siècle. Et que si on est croyant, comme ils le prétendent, chacun répondrait de ses actes un jour.
Suite à cette invitation de la CMA aux États-Unis, il y a le président de la République qui a déclaré « Il faut qu'on nous respecte ». Est-ce qu'il veut dire qu'on n'est pas respecté?
On n'a jamais été respecté. On n'a jamais été respecté. Et ce n'est pas la première fois aussi qu'il tape du poing sur la table et après courber les chines devant ces groupes armés et aussi la communauté internationale. Et nous l'avons toujours vu. Mais le problème est que ce n'est pas seulement la parole. Il faut aller au-delà des dénonciations. Et c'est ce qui, malheureusement, nous constatons chez nous ici avec ce régime. Et c'est ce qui nous a amené jusque là où nous sommes aujourd'hui. On est devenu aujourd'hui fragile et nous sommes contraints tout le temps d'accepter de faire des compromis qui en réalité auront des conséquences fâcheuses sur la sortie des crises. Imaginez un peu ces groupes armés qui sont là. Ils ont toujours été dorlotés par le régime. Ils ont toujours été dorlotés. Mais à chaque fois que l'État, dans sa sincérité, veut poser des actes allant dans le sens de la sortie des crises, au départ, ces groupes, ils affichent leur entière adhésion et après, ils y renoncent à travers des actes incompréhensibles, inadmissibles. Mais il n'y a jamais eu de position ferme, de sanctions fermes de la part du gouvernement malien. Non seulement interpeller la communauté internationale, mais il ne faudrait pas se limiter à ça seulement. Le régime a tous les moyens possibles. Le régime a tous les moyens possibles.
Alors, mais c'est dommage. Volonté.
Mais c'est ce que je vois, finalement, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Et imaginez un peu ces gens-là, ils soupent avec le président de la République. Ils soupent avec le président de la République. Ils sont là, pratiquement, ils sont pris en charge par l'État malien. Mais ils sont partis aux États-Unis. C'est par où ils sont-ils passés? Ils sont passés par l'aéroport du Mali pour aller là-bas, pour arriver là-bas. Et le président de la République peut-il nous dire qu'il n'était pas au courant qu'ils partaient? Pourquoi attendre qu'ils arrivent là-bas pour enfin sortir? Et même sortir, il fallait attendre d'abord la condamnation de cette attitude de la part du MLA par des Maliens pour qu'il sorte pour donner son avis par rapport à cela. Et donc, moi, je trouve franchement dire que aujourd'hui, ces actes, le MLA n'est pas à son premier acte à condamner. Nous avons vu même chez nous ici, chaque année, le MLA fête l'anniversaire. l'anniversaire de leur machin, l'indépendance de quoi quoi au niveau du Nord là-bas. Ils le font. Et quand ils le font, et ils foulent à pied le drapeau malien, tout en brandissant des couleurs soi-disant, comment on appelle ça, celles du drapeau de l'Azawad. Mais il n'y a jamais eu d'acte rigoureux de la part des autorités maliennes. On n'a jamais vu. Et c'est ce qui nous amène franchement dire dans cette situation aujourd'hui qui finalement est inadmissible. Et le peuple, le citoyen lambda que moi je suis, je ne peux pas le comprendre de la part de nos autorités. Parce qu'à chaque fois, et le problème est qu'elles n'aiment pas aussi les critiques. Parce que tant qu'il n'y a pas de critiques, on n'avancera pas.
Ouais.
Et c'est ce qui fait qu'on est, là-dedans. Parce qu'à tout le temps, ils font croire aux gens, que tout va bien, comme si nous sommes sur vraiment des roulettes.
Et c'est ce qui... L'autre question qui se pose, c'est que même si la CMA refuse de déposer les armes aujourd'hui, est-ce que la CMA, elle seule, est-elle aussi représentative pour pouvoir bloquer tout le processus de paix? Est-ce qu'elle est appuyée par les groupes terroristes comme...
Mais c'est ce que moi, je vous ai dit. À un moment donné, lors d'une conférence hebdomadaire de l'AMUNISMA, les responsables de l'AMUNISMA ont clairement dit qu'il y a eu collusion entre YAD et puis le MLLA. Mais moi, je vous dis que la CMA et ces groupes armés ces groupes armés dont YAD Agali est au devant, ils sont en parfaite collaboration au Nord. Je ne les cache pas. Parce que la ministre l'a dit, mais au-delà, n'oubliez pas que ils vivent tous de cette situation. Qui d'entre eux veut la fin? Personne.
Alors, est-ce qu'il faut négocier avec ces terroristes?
C'est la problématique aujourd'hui. C'est la problématique. Et même si vous voyez que l'État malien a finalement mis Yad sur la liste noire, c'est indépendant de sa volonté. Parce que la décision est venue d'ailleurs. Et si la décision est venue d'ailleurs, des grandes puissances... Non, je parle des États-Unis.
D'accord.
Si la décision elle est venue d'ailleurs, nous n'avons aucun moyen. Nous n'avons pas aussi, et même si on n'a pas de moyens, on doit quand même être courageux d'affronter certaines situations. Et cette volonté aussi, il manque. Donc on est tout le temps obligé de rester derrière les décisions venant d'ailleurs.
D'accord.
Et c'est ce qui fait que malheureusement que tout le temps, le résultat, il est drastique.
D'accord. Dante, est-ce qu'il faut négocier avec les terroristes?
Bon, honnêtement, moi je crois que nous sommes dans un contexte aujourd'hui que le Mali seul ne peut prétendre gérer une crise qui est internationale mais qui nous appartient. N'est-ce pas? Nous assurons la paternité de la crise, mais la crise va au-delà du seul Mali. Et de mon cœur de Malien, s'il s'agit de discuter avec des gens en posant clairement des principes, notamment la forme républicaine et laïque de l'État, l'indivisibilité du territoire malien, et que ces gens aient la nationalité malienne, si entre Maliens on peut s'asseoir, se parler, justice viendra après. Justice viendra après. Mais le terrorisme et le traumatisme que nous fait vivre certains groupes dits fréquentables est pire que ce que un YAD nous fait vivre. Quoi de plus dangereux que de voir des gens qui, pendant longtemps, ont vu leur pays dans la stabilité, un pays de paix, un pays de tolérance, un pays chanté par tout le monde par son humanisme, et que subitement comme ça, c'est des morts, c'est notre drapeau qui est brûlé, c'est des propos qui déchirent, et comme si c'est une certaine communication qui est traversée pour plonger le couteau dans le cœur des gens. Ça aussi, c'est une forme de terrorisme qui ne dit pas son nom. Le terrorisme armé, là, est un terrorisme réel, mais c'est un terrorisme verbal, politique, stratégique, qui est mis en œuvre par certaines personnes, qui nous empêche de dormir, qui nous fait saigner le cœur, est souvent plus difficile, à mon avis, que ce terrorisme armé. Donc, si ceux-là qui sont porteurs de ce terrorisme-là ne sont pas dans des groupes internationaux, avec des positions affichées contre un ordre international, l'international djihadiste, on peut ne pas les fréquenter. Mais si c'est avec une lecture d'un certain islam n'est-ce pas, qu'ils veulent expérimenter au Mali, moi je pense qu'autant essayer de discuter pour épargner des vies humaines, si la solution doit être malienne.
D'accord. Abordons déjà le deuxième sujet avec la force G5 Sahel. Est-ce que cette force pourra changer quelque chose par rapport à cette lutte contre le terrorisme dans le Sahel?
Bon, moi je crois que toutes les forces qu'on va mettre en place dans ce pays n'auront de sens que lorsque nous aurons une armée bien structurée, capable de défendre son territoire national. Ces différentes forces, notamment la force G5 Sahel, qui doit aller chercher son budget ailleurs, et nous pensons quand même que le domaine militaire, c'est le domaine du secret. Mais si tout le monde est unanime, y compris les partenaires qui sont censés nous soutenir, et même si ceux-là qui sont censés combattre aussi savent que la force censée les combattre doit aller chercher des moyens ailleurs pour venir s'implanter. Et la communication aussi qui se fait autour de cette force G5 Sahel par certains pays dits amis, puissants, c'est humiliant. Quand on dit par exemple que telle opération ou l'AMINUSMA va donner la nourriture et l'eau. Bon. Et imaginez que des gens, pères, maris, qui sont sur le front, se battent pour protéger des vies humaines. Et maintenant quand on dit qu'ils font le mendiant, c'est ce que ça veut dire en quelque sorte. Honnêtement, qu'on voit en nous des êtres humains, qu'on voit en nous des citoyens d'un pays qui ne veut que la paix. Mais quand la force G5 va être alimentée, ou l'AMINUSMA pourrait donner l'eau et la nourriture, mais de grâce, qu'on nous respecte.
Au-delà de cela, il y a certains qui pensent que cette force sans l'Algérie ne pourra pas arriver à grand-chose.
Stratégiquement, ça c'est très clair.
D'autres également pensent qu'avec l'arrivée de Soumaïlou Boubaï Maïga, qui a choisi l'Algérie comme premier pays pour sa sortie, ses visites, que ça pourrait changer quelque chose dans cette situation.
Bon, souhaitons-le. Souhaitons-le parce que c'est des acteurs quand même qui sont dans la zone. Acteurs algériens, un nouveau gouvernement, c'est des gens qui se connaissent depuis très longtemps, qui ont réussi à stabiliser la zone pendant longtemps. Et maintenant, vu les enjeux actuels, nous ne pouvons que leur souhaiter bonne chance pour arriver à stabiliser la zone et à épargner des vies humaines.
D'accord. Boubacar Yalkoué, cette force G5 Sahel, l'arrivée de Soumaïlou Boubaï Maïga et le rôle de l'Algérie par rapport à toute cette lutte contre le terrorisme.
Oui, par rapport à la force du G5 Sahel pour la sécurisation du Sahel, la lutte contre le terrorisme, moi j'affiche de l'espoir par rapport à cette force composée uniquement d'éléments africains. Aujourd'hui, le financement, même si le financement posait problème, mais je pense que les choses commencent à entrer dans l'ordre. Au regard de la vision affichée de certaines grandes puissances de mettre un peu aussi dans la cagnotte. Et la rencontre qui a eu lieu à Paris l'autre jour entre chefs d'état-major de ces pays, du G5 Sahel et puis aussi les ministres, et aussi certains partenaires. Et je pense que Madame le ministre des Armées de France a quand même affiché des visions claires et puis qui vraiment donnent de l'espoir. Et maintenant sur le terrain, il faut rapidement aller puisque le terrorisme c'est un phénomène qui n'attend pas, et toute seconde qui passe elle est précieuse pour la lutte contre le terrorisme. Et il faut rapidement partir, même s'il y a eu une seconde opération appelée Pagnali.
Voilà effectivement déjà deux opérations sur le terrain. C'est une avancée.
Voilà, effectivement, je pense que c'est une bonne chose, mais au-delà il faut aussi voir un peu. Vous avez parlé du cas de l'Algérie et qui parle de lutte contre le terrorisme dans le Sahel, il faut obligatoirement mettre l'Algérie quand même au cœur du dispositif. Et Boubé a été là-bas, mais moi je doute fort pour deux raisons. Que l'Algérie soit une partie intégrante de cette force du G5 Sahel dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Un, parce que c'est la France qui est au devant de cette histoire aujourd'hui. Et tout le monde sait les relations tendues entre la France et l'Algérie pour plusieurs raisons. Au-delà de cela également, quand on parle de terrorisme, l'Algérie, elle est en paix aujourd'hui, puisque à un moment donné, une partie aussi de son territoire était vraiment écumée par ses forces du mal. Et si elle arrive à se reposer
aujourd'hui du fait que ses forces sont parties ailleurs. Donc, elle, difficilement, elle pourra s'engager dans une lutte qui va encore disperser ces forces-là qui pourraient quand même se retrouver sur son territoire encore.
Certains pensent même que l'Algérie joue un double jeu.
Voilà, voilà, effectivement. Donc, il y a ce côté aussi qu'il faut voir, raison pour laquelle l'Algérie, elle est réticente aujourd'hui. Elle est réticente pour ces raisons. Et aussi, elle sait que quand la France elle est au devant d'une action, il faut se dire qu'elle n'est jamais sincère à 100%.
La France n'est jamais sincère?
Non.
Et vous pensez que la France n'est pas sincère dans la gestion de cette crise?
Non, mais elle n'est pas du tout sincère. Parce que quand on regarde la crise, elle vient d'où? Tout le monde connaît avec la crise, avec l'histoire de la Libye. Tout le monde sait. Et l'histoire de la Libye, avec l'assassinat de Kadhafi, c'est venu d'où? Tout le monde le sait. Et ces gens, quand ils sont arrivés au nord du Mali, quand ils ont menacé de prendre le centre du Mali, on a vu l'intervention de la France. Elle nous a permis d'arriver jusqu'à Gao Tombouctou, mais elle nous a interdit d'entrer à Kidal. Pour quelle raison? Elle est la seule à pouvoir répondre à la question. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que nous sommes dans cette situation aujourd'hui.
D'accord. G5 Sahel, c'est pour le Sahel, bien sûr. Et le Mali occupe pour le moment la présidence de cette force. Mais pour quelques mois, est-ce que si le Mali n'est plus président de cette force, ça pourra toujours avoir un cap sur le Mali?
Non, moi je pense qu'il n'y a pas de problème parce qu'aujourd'hui tout le monde a intérêt. Oui. Ces pays membres du G5 Sahel, nous avons tous intérêt parce que nous avons vu le terrorisme, ce que ça a coûté au Burkina Faso, aux autres pays membres du G5 Sahel aujourd'hui. Et donc la menace pèse, plane sur la tête de tous ces pays. Et nous avons tous intérêt aujourd'hui à faire face à ce fléau, parce que les éléments qui étaient là, il y a d'autres éléments qui sont venus, qui ne sont même pas de ces pays africains, mais qui sont venus peut-être de vers peut-être à l'Afghanistan, la Syrie, ainsi de suite. Il y a certains qui disent qu'il y a des éléments qui sont venus de là-bas, qui sont présents aujourd'hui dans le Sahel. Et donc ça, c'est une menace très dangereuse encore, puisque stratégiquement, c'est des gens qui ne misent pas et ratent leur cible. Tout le monde les connaît avec ça. Et donc le danger est en train de prendre une proportion, une dimension international, et pas seulement les pays membres du G5 Sahel, mais c'est la communauté internationale qui est interpellée aujourd'hui, et elle a intérêt à ce qu'on stoppe ce fléau rapidement. Sinon, si ces pays, aujourd'hui ce sont ces pays, mais ça peut atteindre aussi d'autres dans les jours à venir, et aussi ces forces, le fait que ce soit des Africains qui sont au devant, c'est une bonne chose, les mettre au devant de la chose, c'est une bonne chose, parce que les populations sont plus et partant pour une collaboration avec des Africains qu'avec avec des Européens.
Parlant de cette collaboration avec les populations, on a vu récemment les femmes qui ont demandé leur implication dans le processus de paix. Est-ce que leur implication va pouvoir changer quelque chose dans ce processus?
Bon, elles n'ont pas demandé leur implication, elles doivent s'impliquer. Elles doivent s'impliquer par la prise en compte de leurs préoccupations, parce que quand même elles sont les premières victimes de cette situation. Donc on ne demande pas son implication dans un processus de paix concernant son pays, mais on s'implique.
En demandant leur implication, est-ce que vous pensez qu'elles cherchent autre chose?
Bon, là je ne le dirai pas.
Quel est votre avis là-dessus?
Oui, leur implication, je pense que ça pourrait avoir un impact capital sur le processus. Mais là où nous sommes aujourd'hui, vouloir remettre en cause ou bien demander la recomposition du CSA, ça va encore nous mettre en retard. Ça va encore nous mettre en retard, et je pense qu'elle pourrait attendre d'autres dans le processus. Elle pourrait quand même jouer une partition capitale, il n'y a pas de problème. Mais d'un côté aussi, on voit comme si les femmes aussi s'agrippent aux 30%. Et partout où elle va franchement dire que les femmes ne sont pas représentatives à hauteur de soi, comme la loi le dit, donc elle le réclame. Donc là-bas, on voit que c'est plus une question peut-être de d'occupation des postes.
D'interpellation aussi.
Voilà, hein. Voilà, que d'action concrète, quoi.
D'accord. Voilà. Courte pause, vous suivez le forum de la presse. Nous allons recommencer tout de suite.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
De Deux journalistes donnent leur point de vue sur l'actualité ou une grande partie de l'actualité qui a marqué la semaine. Il s'agit de Bandiougou Danté et Boubacar Yelkoué. Cette fois-ci, on va parler des prochaines élections. On a vu que le CSA, au cours de la 23e session du CSA, le gouvernement, la plateforme et la coordination des mouvements de la Zawad ont affiché une volonté de voir les futures échéances électorales se tenir aux dates prévues. Et au moment, il y a le JUPREC, Justice, Prévention et Réconciliation, qui a tenu une rencontre en cours à Bamako pour parler de corruption et élections. Alors, Bandiougou Danté, à quoi peut-on s'attendre par rapport aux prochaines élections qui doivent se tenir au Mali?
Bon, nous pensons que la fièvre électorale, elle a déjà commencé. Parce que je pense que les différents camps commencent déjà à préparer ou à affûter leurs armes, ce qui est déjà intéressant. Mais nous pensons quand même que parfois, il faut s'interroger. De 2013 à nos jours, qui aurait cru qu'on serait encore dans cette situation? Est-ce que la situation n'est pas en train de se dégrader que lorsque les élections de 2013 se tenaient? Au rythme où on va, nous ne le souhaitons pas, mais je pense que si rien n'est fait pour calmer les ardeurs, les appétits de certains, on risque de se retrouver dans des situations vraiment chaotiques. Parce que déjà, ces élections régionales qui ont été annoncées ont été reportées au moins 3 fois, n'est-ce pas? Or, ça, c'est des élections d'enjeu important, mais l'enjeu est moindre par rapport à une élection présidentielle. Quand on sait aujourd'hui que les uns et les autres affichent clairement leur ambition, n'est-ce pas, de briguer la magistrature suprême, on vient gérer un pays. On se bat pour gérer un pays. Et si ce pays même est menacé dans son existence, on va gérer quoi? Donc je crois que le régime actuel a hérité d'une situation d'implication de la communauté internationale, d'implication des différents groupes armés pour permettre la tenue d'élections, surtout présidentielles. Mais aujourd'hui, de plus en plus, nous nous demandons, avec des situations qui naissent dans la partie centrale du pays, est-ce qu'on pourra véritablement tenir les élections sur toute l'étendue du territoire national, à la date indiquée, de façon démocratique, transparente et libre. Ça, c'est extrêmement important. Il ne s'agit pas d'organiser les élections pour les organiser, mais il s'agit d'organiser des élections qui ne soient pas contestées. D'accord. Aussi.
Yelkoué, certains pensent qu'il faut annuler ou reporter pour le moment les élections locales et se concentrer sur les élections présidentielles.
Moi, je suis du même avis. Je suis du même avis parce que nous voyons quand même une instabilité plus dangereuse qui se pointe à l'horizon au regard des propos tenus de part et d'autre par certains acteurs politiques qui aujourd'hui déjà affichent leur position contre une probable transition au Mali. Et cela aussi est exprimé pour plusieurs raisons qui se manifestent aujourd'hui sur le terrain. Surtout, imaginez un peu la crise du Nord. Nous avons presque les deux régions, Mopti et Ségou aussi, qui sont menacées aujourd'hui. L'administration n'est pas là, les écoles sont fermées. Et toujours, ce sont des attaques. À certaines heures, des juges enlevés. À certaines heures, on ne peut pas aussi circuler en toute quiétude. Et cela fait aujourd'hui que ça va être compliqué avant quand même à la date de l'élection présidentielle. Et parce que le problème aussi est que comment le régime pourra-t-il faire face à tous ces problèmes-là en un laps de temps? Parce que cela nous fait 4 ans, ils n'ont pas pu résoudre ces problèmes. Et l'insécurité, elle a pris une autre dimension plus large encore. Et quelqu'un qui n'a pas pu résoudre un petit problème, si le problème s'aggrave, comment pourra-t-il le faire? Nous faisons face à cette équation aujourd'hui. Et le délai imparti pour cela, c'est vraiment compliqué, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, la transition, elle n'est pas épargnée. Et la transition aussi, elle est avec ses conséquences. Parce que quand on tombera dans une transition, Et tout le monde sait qu'il y a beaucoup de partenaires qui vont plier bagage. Parce que ce n'est pas un président légitimement élu qui est là. Parce que nous savons, nous connaissons très bien comment les transitions fonctionnent. Et ça, c'est des facteurs, franchement, qui pourraient avoir un coup de rein ou un impact aussi considérable, néfaste sur la résolution de la crise malienne. Et aujourd'hui, il faut tout faire. Raison pour laquelle j'ai vu ces derniers temps des diplomates qui font des démarches de part et d'autre. Ils partent au niveau de l'opposition, la société civile, ainsi de suite, pour quand même recenser les inquiétudes de tout un chacun et aussi recenser les propositions de tout un chacun afin de voir comment nous pourrons nous donner les mains et faire face rapidement au fléau et en sorte que les élections puissent se tenir quand même aux dates prévues, au délai constitutionnel. C'est une bonne chose. Et moi, je me dis aujourd'hui que chacun doit s'inscrire dans cette dynamique-là. Que ce soit le régime, que ce soit l'opposition ou la société civile, ou nous-mêmes, la presse aujourd'hui, on doit faire tout pour que les élections puissent se tenir dans les délais prévus par la constitution malienne.
D'accord. Bandiou Danté, tenir ces élections ou une transition, quelle est la meilleure option pour le Mali?
Bon, moi je pense qu'une transition nous a légué un pouvoir légitimement élu, démocratiquement élu. Et ce pouvoir ne constatera son échec que lorsque son mandat se terminera par une transition. Parce qu'une transition, c'était pour donner un nouveau point de départ à la nation malienne, à l'État malien. Donc si jamais on tombait dans une transition, je ne le souhaite pas, c'est comme si on a passé 5 ans à pavaner, à patauger. Nous n'avons pas intérêt. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est par une démarche politique plus honnête, plus sincère et plus patriotique que le pouvoir d'abord doit réussir à rassembler l'ensemble des fils. Et que l'on a beau avoir des convictions profondes, sincères, il faut être entouré également des gens qui ne pensent qu'à l'intérêt supérieur du pays. C'est là extrêmement important. Mais si aujourd'hui, on est en train de créer des amis, des ennemis et d'un chef, je pense qu'une transition ne peut pas être évitée dans des conditions pareilles. Travaillons tous à faire en sorte que la fête de la démocratie soit une belle fête, qu'on organise les élections et celui qui va gagner ne sera qu'un Malien.
Les groupes armés affichent une bonne volonté par rapport à la tenue de ces élections. Bon. Le gouvernement annonce une vaste opération dans le centre pour sécuriser cette zone et également l'opération Pagnali, par exemple, qui est lancée par le G5 Sahel. Est-ce que toutes ces mesures vont pouvoir faire de telle sorte que les élections puissent se tenir partout au Mali?
Nous voulons voter dans la sécurité. Nous voulons voter calmement. Et nous voulons aller voter sans inquiétude. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, que ces groupes armés affichent leur volonté à ce que les élections se tiennent correctement, quelle élection pour eux, d'abord? Il faut qu'on se dise la vérité. Quelle élection? Parce que moi, je pense que les gens qui s'inscrivent dans un processus de paix ne chercheraient jamais à poser des actes qui bloquent ce processus-là. Maintenant, aujourd'hui, peut-être que je suis trop naïf. Qu'est-ce qui ne va pas? Toutes les conditions nous permettant de mettre en application un accord, de demander à ces étrangers qui vivent parmi nous, merci, allez-vous-en, nous pouvons désormais nous occuper de nos problèmes. Mais pendant 5 ans, on a le sentiment qu'on fait un demi-pas et 3 pas en arrière. Par la faute de qui? Pratiquement de tous les acteurs. Et nous, on commence à sentir vraiment la fatigue. Donc nous pensons que, pour revenir directement à ta question, nul ne doit souhaiter une transition pour le Mali à la fin du mandat du président de la République. Et faisons en sorte que vraiment nous travaillons à ce que le processus démocratique normal continue et qu'on arrive effectivement à gérer politiquement la crise que nous sommes en train de vivre pour faire face aux défis sécuritaires mondiaux que toutes les nations connaissent aujourd'hui. D'accord. Mais quant à organiser un agenda pour qu'on puisse tomber dans une transition, pourquoi en faire?
D'accord. Yalkou, une rencontre se tient à Bamako pour parler de corruption en période électorale. Peut-on réellement lutter contre ce phénomène au Mali?
Bon, c'est le phénomène, le combattre, ce n'est pas facile. Et il doit être d'abord individuel. C'est la conscience de tout un chacun qui doit quand même
la gronder, parce que la corruption, elle a atteint un niveau aujourd'hui où c'est même finalement devenu une habitude pour le Malien. Et aussi en période électorale, les 2000 francs, les 5000 francs que les gens prennent, parce que ils pensent que le politique, quand il vient avec les sous, il faut prendre. Mais il ne mesure pas le danger. Le danger, parce qu'au lieu de prendre quand même ses sucres, ses matériels, il faut tenir quand même compte du programme de société. C'est très important parce que ton avenir en dépend et l'avenir du pays tout entier en dépend également. Donc il faut aller vraiment vers des sensibilisations, faire en sorte que la mentalité puisse changer et que le peuple ait, le citoyen ait un esprit critique vis-à-vis de ce que le politique propose. Et aussi en tirer profit, essayer de voir le bien et le mal pour son avenir. Parce que tant qu'on ne part pas vers cela, tant qu'on ne part pas vers des programmes de société, au choix des programmes de société solides pour le bonheur du peuple malien, on va rester quand même dans ce sigle infernal.
D'accord. Dante, est-ce que le citoyen lambda a suffisamment souffert aujourd'hui pour refuser cette corruption et demander un bon programme de société?
Bon, honnêtement, c'est là toute la grande question. Est-ce qu'aujourd'hui les gens ont été avertis par ce que nous avons vu, par ce que nous avons connu, pour que les gens comprennent déjà, enfin, que nous appartenons à un pays. Que nous appartenons à un pays. Mais nous pensons que ce qui est dangereux, c'est l'instrumentalisation de la pauvreté des populations à des fins électoralistes. Je connais des élus qui n'ont aucun programme, qui n'ont aucune proposition, qui mobilisent tous les moyens pour transporter des votants, qui leur donnent de l'argent, ils vont voter, ils reviennent. Maintenant, que faire? Que faire? Une partie infime de la population comprend aujourd'hui qu'il faut aller vers des programmes. Sinon, tous les acteurs sont connus. Qui a fait quoi? Qui fait quoi? Qui peut faire quoi? Nous le savons. Mais on maintient un système qui consiste à échanger la dignité des gens contre l'argent. Et malheureusement, ceux qui viennent ne peuvent rien faire.
Non.
Bon, est-ce en ce moment la question essentielle que nous nous posons, est-ce le système démocratique avec ces votes auxquels on assiste, est le meilleur système qui convient pour nous pour sortir de cette situation, ou est-ce qu'il faut inventer une façon plus légitime, n'est-ce pas, de choisir les dirigeants en dégageant des critères qui mettraient l'accent sur la conduite.
D'accord.
Qui mettra l'accent sur la compétence.
D'accord.
Et qui mettra l'accent sur l'efficacité.
Il nous reste 2 minutes, 1 minute pour chaque invité pour nous parler un peu de la grève des enseignants. On a vu qu'une partie des revendications a été acceptée par l'État à travers le vote de la loi par l'Assemblée nationale et qui a été promulguée par le président de la République. Cependant, les enseignants disent qu'ils n'ont pas confiance aux autorités. Ils attendent l'application de ces différentes mesures. Au même moment, les parents d'élèves demandent à ces enseignants de tenir en compte l'intérêt des enfants. Bandjougou Donté, vous avez été enseignant. Que pensez-vous de cette grève?
Je n'ai pas été enseignant. Je suis et je reste enseignant.
D'accord.
Et mon cher ami,
une minute.
Honnêtement, moi je pense que aucun État n'a intérêt à entretenir une crise de confiance entre ses enfants et l'État. Un accord a été signé. Il a été dit que la situation va être examinée à la session de l'Assemblée. On ignore superbement un accord pris par un État. Et il a fallu que des gens lancent des mots d'ordre extraordinaires pour qu'à la va-vite, on convoque l'Assemblée pour examiner un engagement déjà pris par l'État.
Donc vous pensez que les enseignants ont droit de ne pas faire
si
confiance
jamais,
aux autorités?
Mais si jamais ils ne maintiennent pas la pression et qu'ils lâchent, et si ça n'applique pas, et à l'approche des élections, probablement vers les mois de mai-juin. Que la même situation commence à un moment où nous serons à la, au moment de la tenue des examens.
Ça va être compliqué.
Ça va être, ils vont ajouter la crise à la crise. Maintenant, que, quand les vins étirent, il faut les boire.
D'accord. Bialkouye, qu'en pensez-vous?
Oui, moi, je suis parfaitement d'accord avec les enseignants et aussi les syndicats signataires de cet accord avec l'État. Je les ai toujours accompagnés en termes quand même de publication au niveau du journal. Et je pense évidemment qu'ils ont parfaitement raison du moment où l'État ne respecte jamais ses engagements vis-à-vis quand même de ses citoyens. C'est ce que nous avons vu malheureusement dans ce pays.
D'accord.
Et tant qu'on ne met pas de pression, ils ne courbent jamais les chines.
Espérons qu'une solution sera trouvée à cette grève. Fin de ce forum de la presse. Nos invités, tous journalistes, Bandjougou Danté et Boubacar Yalkoui. Débat réalisé par Fatmata Togola à la mise en onde Mamadou Ouattara, régie vidéo assurée par Peting Diarra et Mamadi Keïta. Je suis Mohamedou Touré. À vendredi prochain pour un autre numéro du forum de la presse.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Haloud Moundi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.